VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonjour à tous. Nos toutes dernières informations. On commence par la RDC où la mission de l'ONU, la MONUSCO, prête à aider les autorités congolaises dans l'enquête pour faire la lumière sur le dossier de la fosse commune contenant 421 dépouilles découvertes aux environs de la capitale Kinshasa. On écoute le porte-parole onusien à Kinshasa, Charles Bambara.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme va accompagner cette mission d'enquête qui a été diligentée sur le terrain pour aider à voir un peu plus clair sur les circonstances qui entourent cette fosse commune. Et la MONUSCO se réjouit par ailleurs qu'une enquête judiciaire ait été ouverte déjà. Et nous offrons, nous, MONUSCO, notre concours à l'équipe des techniciens sur place qui ont entamé donc les enquêtes sur le terrain. Nous attendons de prendre connaissance des détails de ce rapport des enquêteurs sur place et donc à la fin des enquêtes, que nous comptons une fois de plus accompagner, la MONUSCO est vraiment décidée à faire la lumière sur cette affaire.
Voilà, c'était Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO au micro de Top Congo, notre station partenaire à Kinshasa. Au 21e anniversaire du début du génocide rwandais de 1994, Ibuka Rwanda, l'association rwandaise des rescapés du massacre, salue l'annonce de la déclassification par Paris des archives de la présidence française de 1990 à 1995. Un geste fort, selon les membres du groupe, qui ont souvent accusé la France de responsabilité partielle dans les événements de 1994. On écoute Jean-Pierre Dosingouye Mungu, il est le président d'Ibuka Rwanda.
Nous avons accueilli avec joie ce message de Paris. C'est un message qui vient nous dire que la France maintenant commence à s'impliquer à répondre aux différentes questions que nous nous posons souvent. Nous avons demandé chaque fois qui est la déclassification et donc nous sommes contents que les autorités françaises aient pris cette décision. Mais nous émettons cependant une réserve par rapport à ça parce que nous voudrions que tous les dossiers soient accessibles et qu'ils ne retiennent que des dossiers qui ne posent pas de problème. Nous espérons qu'à travers les documents qui seront déclassifiés, il y aura la corroboration de ce qui est déjà connu pour justement permettre à tout le monde d'avoir accès à la vérité, qui pourrait aussi donner l'occasion aux autorités françaises de pouvoir dire « voilà, eh bien, nous acceptons cette responsabilité et nous demandons pardon ».
Vous semblez avoir, et depuis 20 ans, de nombreuses preuves finalement de ce que vous affirmez. Est-ce que vous les partagez, notamment avec la justice française,
oui,
etc.
On les partage et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de publications là-dessus et de publications qui se basent sur des documents. Maintenant, nous attendons que les autorités françaises fassent la même chose. En tout cas, s'il y a une déclassification des documents, moi j'espère que ces documents soient accessibles à tout le monde, aux associations, aux différents chercheurs, parce que ce ne sont pas que les Rwandais qui veulent bien consulter ces documents. Ce serait un début d'une amélioration définitive des relations entre la France et le Rwanda.
Jean-Pierre Dosingouye Mungu, joint à Kigali par Nathalie Barge. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition salue le bon déroulement du vote qui a conduit à l'adoption du nouveau code électoral. Le gouvernement demande à l'ensemble des acteurs de la classe politique, de la société civile et des populations d'accompagner sa mise en œuvre. Selon ce nouveau texte adopté par le Conseil national de transition, les partisans du président déchu Blaise Compaoré sont exclus des élections présidentielles et législatives d'octobre. Arrestation en Ouganda d'un ancien détenu de la prison américaine de Guantanamo, Jamal Kiyemba, est soupçonné d'avoir joué un rôle dans le meurtre le mois dernier dans la capitale ougandaise de la procureure Joano Kagezi. Les précisions de Claire Morangibour.
Kiyemba, qui est ougandais, a été appréhendé en compagnie de trois compatriotes à Kampala, a indiqué hier Fred Enanga, porte-parole de la police. Arrêté au Pakistan en 2002, Kiyemba avait été envoyé à Guantanamo. Il a regagné l'Ouganda après sa libération en 2006. Selon les autorités ougandaises, des agents gouvernementaux américains ont appuyé l'opération ayant abouti à ses arrestations. Le service service swahili de la VOA chiffre à 16 le nombre total de personnes interpellées en rapport avec le meurtre le 30 mars dernier de la procureure Joan Kagezi. Cette dernière était chargée des poursuites contre les auteurs présumés des attentats de juillet 2010 qui avaient fait plus de 70 morts et 65 blessés dans la capitale ougandaise. Ces attaques, qui visaient des spectateurs de la Coupe du Monde de football 2010 dans des lieux publics, avaient été revendiquées par le groupe Al-Shabaab.
Vous écoutez VOA Afrique et il est 13h15.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité américaine à présent à Boston, un jury fédéral a reconnu Chokar Sarnaev coupable d'avoir perpétré les attentats de 2013 qui ont fait 3 morts et 264 blessés lors du célèbre marathon de cette ville du Massachusetts. Les précisions de Michel Joseph.
Coupable de la totalité des 30 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 17 passibles de la peine de mort. C'est dans la deuxième phase du procès qui commence la semaine prochaine que le jury devra prononcer la sentence, la prison à vie ou la mort. Le verdict n'était pas une surprise dans la mesure où les avocats de Tsarnaev n'avaient pas contesté les faits contre leur client, utilisation d'armes de destruction massive et complot, en particulier les cocottes minutes, qui ont explosé à la ligne d'arrivée du marathon. La défense, qui soutenait que le jeune Tsohar était seulement victime de l'influence maléfique de son grand frère Tamerlan, plaide maintenant pour la prison à vie. Selon Johar Tsarnaev, les attentats visaient à venger, avait-il écrit, les attaques des États-Unis contre les musulmans dans les guerres en Irak et en Afghanistan.
Voilà, dossier nucléaire iranien. Le président de l'Iran, Hassan Rouhani, dit que son pays ne signera pas avec l'Occident un accord sur le programme nucléaire de Téhéran si toutes les sanctions internationales contre Téhéran ne sont pas levées. Pour sa part, le guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, affirme que l'accord cadre conclu entre l'Iran et les grandes puissances la semaine dernière sur le nucléaire iranien ne garantit pas la signature d'un accord définitif d'ici la fin de juin sur ce dossier. L'ayatollah Khamenei a ajouté qu'il n'est ni pour contre le document négocié pour le moment à Lausanne. Par ailleurs, l'Iran envoie donc des navires de guerre au large du Yémen et ce pour protéger ses intérêts maritimes, déclare un contre-amiral iranien. De son côté, le secrétaire d'État américain John Kerry affirme que les États-Unis sont très préoccupés par le soutien iranien aux rebelles chiites houthis du Yémen qui se battent actuellement contre les forces pro-gouvernementales du président Abd Rabbou Mansour Hadi, appuyé par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain applaudit le rôle d'Alger en matière de sécurité régionale, notamment ses efforts de paix au Mali et en Libye. En recevant le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, à Washington, John Kerry s'est félicité de la coopération en matière de sécurité, pierre angulaire de la relation entre les États-Unis et l'Algérie.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà du sport dans ce journal. Hein, le football, hein, l'information, c'est que la CAN 2017 aura bien lieu au Gabon. Le Gabon qui a été préféré à l'Algérie et au Ghana pour organiser cette 31e CAN. Cette édition devait initialement se disputer en Libye avant que ce pays, en proie à une guerre civile, ne se dispute. Parmi les 13 groupes de qualification, deux sont particulièrement relevés. On note aussi le groupe du Burkina Faso. Réaction ce matin de l'entraîneur du Burkina, Gernot Rohr.
C'est un groupe qui est relevé parce que ce soit le Botswana ou l'Ouganda, c'est deux très bonnes équipes et les Comores ne sont pas à sous-estimer. Donc on va vraiment bien se préparer pour finir premier de ce groupe. Ça ne sera pas facile. Et surtout les matchs au Botswana et en Ouganda sont des matchs redoutables. Donc il faudra être prêt. Le premier adversaire, ça sera les Comores à Ouagadougou au début du mois de juin. Et voilà, déjà là, il ne faudra pas sous-estimer cet adversaire qui est un adversaire peut-être pas très, très connu, pas très, comment dirais-je, composé de beaucoup de joueurs professionnels, mais quand même un adversaire respectable. Et après, il y aura les matchs, les deux gros matchs contre Ouganda et Botswana. Donc, ça sera un groupe difficile pour nous, puisqu'il faudra finir premier pour se qualifier.
Mais le coup est jouable.
Le coup est jouable, bien entendu, parce qu'il y a quand même une bonne équipe. Une équipe qui a un petit peu raté sa CAN, mais qui a envie de se racheter. et qui est très motivé pour être au Gabon, surtout moi qui connais bien ce pays.
Voilà, c'était Gernot Rohr, le sélectionneur du Burkina Faso. Je rappelle que le Burkina fait partie du groupe D avec l'Ouganda, le Botswana et les Comores. Merci de nous avoir suivis. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure.